et bienvenue sur Fréquence Diagonale spéciale 16e siècle, Ruy Lopez, avec notre critique littéraire du jour, c'est Pierre Tesserin. Bonjour Pierre.
Bonjour Stéphane.
Alors Pierre, je dis critique littéraire parce que tu étais déjà intervenu l'an dernier sur l'émission pour parler du Philidor et on aime bien sur Fréquence Diagonale parler des livres, on parlera aussi bien sûr d'autres livres, hein, d'autres auteurs, mais enfin pour l'instant on fait un parcours historique. Alors, ce Ruy Lopez, tu as été le premier lecteur, je dirais, à l'avoir parcouru, cette traduction 2015, cette nouvelle édition. Alors comment tu as reçu ça d'abord?
Alors tout d'abord, pour le comparer un petit peu avec le Philidor qui a précédé, il y avait une partie historique, il y a une partie historique qui est très abondante, très intéressante et qui permet de situer le travail de Ruy Lopez dans un contexte de l'Espagne du 16e et avec des comparatifs avec des comparaisons avec l'art de la guerre qui était très développé à l'époque à travers des traités, et c'est ça qui fait la grande différence. Après il y a la partie bien sûr échec, et je dois dire qu'il y avait beaucoup à lire, plus les références latines qui accompagnaient le texte.
D'accord. Alors évidemment, on va creuser ces aspects-là, parce qu'on va parler de ce livre, mais on va aussi parler de Ruy Lopez et de l'époque aussi, mais sûr de l'époque, pour bien situer cet événement qui est ce livre, mais aussi le jeu d'échecs à cette époque. Mais au-delà, je dirais, de cet aspect effectivement contenu, tu me parles, effectivement, il y a une grosse partie dont on va parler abondamment, historique, qui est mise au point par Ruy Lopez avant de démarrer la partie purement technique. Mais comment tu percevais avant ce livre? Est-ce que tu connaissais même l'existence de ce livre, en fait?
Non, je ne connaissais pas l'existence de ce livre. J'imaginais bien qu'il existait quelque part un traité écrit dans la langue de Ruy Lopez de Segura, puisque c'est l'espagnol. Et il fallait bien qu'il y ait un substrat théorique pour présenter la partie espagnole, telle que on sait qu'elle est originée à partir de ses travaux.
Ouais, d'accord. Alors, moi, je m'étais posé la question aussi, et je m'étais toujours demandé, mais pourquoi il n'y a pas eu de nouvelle édition de ce traité? Surtout que, bon, une fois qu'on l'a lu, on se rend compte quand même qu'il est extrêmement riche et intéressant d'un point de vue échiquien. On est en droit quand même de se demander comment ça se fait que depuis 400 ans, il n'y a plus eu de réédition de cet ouvrage qui est d'une portée historique tout à fait importante. Et qui restait justement, comme on peut le voir avec toi, qui est quand même un amateur quand même assez au courant de l'histoire du jeu, qui est resté un peu dans les oubliettes. Alors comment tu expliques ça? Est-ce que tu as une idée de ça, comment justifier cet oubli?
Je verrais deux raisons. La première, c'est qu'il manquait de traducteurs, un traducteur pour proposer en français ce travail de Ruy Lopez. Et deuxièmement, maintenant les livres d'échecs sont surtout des livres extrêmement techniques qui font un peu l'économie de la partie historique et qui en viennent directement aux variantes tout à fait calquées sur le jeu de compétition, la théorie, les pratiques du jeu moderne dans les grands tournois, etc. Donc c'est peut-être une partie historique qui est un petit peu oubliée, à part certains chercheurs qui de temps en temps évoquent cette période pour illustrer la partie espagnole, rappeler un petit peu qui était son créateur, enfin son théoricien toujours. Je pense que il manquait le traducteur.
Ouais. Alors donc effectivement, ça a été traduit indirectement de l'espagnol, c'est bien de le rappeler. Alors c'est un travail assez long parce qu'il faut d'abord apprendre l'espagnol et puis après faire ce travail de traduction. Alors on va rentrer dans le livre directement, donc puisque tu l'as lu avec ce regard de première critique, de premier lecteur de ce travail de Ruy Lopez qui nous parvient enfin en français. Alors tu me parlais, donc on va maintenant plonger dans cette première partie dont tu nous as parlé, première partie du livre, effectivement assez longue, historique, très riche. Alors comment on pourrait la décrire, cette partie? Je crois que toi tu m'as dit avant l'émission qu'on pouvait la séparer en deux. Hein.
J'ai remarqué que tout d'abord, Ruy López faisait un parallèle avec les traités de l'art de la guerre de l'époque, tout en précisant que c'était un jeu tout à fait louable, courtois, qui était très intéressant du point de vue non seulement ludique, mais également dans les relations sociales, et puis très instructif pour l'honnête homme, je dirais. Et d'autant plus que il le prouve en se référant beaucoup à des citations latines sur comment se comporter en telle situation. Et il y a une espèce de respect de l'adversaire, comme dans les traités courtois, je dirais, mais rapportés à la guerre. C'est ça qui semble très intéressant. C'est deux parties qui montrent également la symbolique du jeu, comment les pièces, pourquoi elles existent. Il y a beaucoup de questions d'ailleurs qui sont intéressantes, quelques réponses d'ailleurs pas tout à fait certaines de Ruy López, expliquant l'origine de la case blanche à droite, du nombre de cases, etc.
Voilà. Alors, ce qu'on peut noter aussi, évidemment, moi c'est ce qui m'a étonné, hein, forcément aussi, à la traduction et à la relecture, c'est le nombre de citations latines qu'il y a dans cette partie-là. C'est incroyable de voir combien il fait référence aux auteurs romains ou voire grecs pour justifier des principes moraux sur le jeu d'échecs, ou des présentations, ou des justifications, même de la force de certaines pièces, etc. Il va citer des auteurs anciens, des traités anciens, qui parfois n'ont pas de rapport direct avec le jeu d'échecs d'ailleurs.
Oui, excepté peut-être Jacobus de Césolis, qui faisait un parallèle guerrier entre le jeu d'échecs, qui n'était pas aussi évolué, théorisé qu'au moment de Ruy López, puisque c'était peut-être une centaine d'années avant, même beaucoup plus, mais la partie jeu d'échecs était très faible. C'était plutôt la partie affrontement, avec tous les termes guerriers, donc c'est parallèle de l'affrontement entre deux adversaires, une lutte de camp à camp, et c'est ça qui fait que les citations latines viennent en renfort des préceptes de Ruy López, puisqu'il y a un comportement guerrier avec un respect de l'adversaire, avec des tactiques. Là, on arrive déjà dans la vision moderne du jeu, finalement.
Alors, est-ce qu'à ton avis, alors moi je suis pas du tout latiniste, hein, toi je sais que tu l'es un petit peu, est-ce qu'à ton avis l'emploi comme ça du latin était dû essentiellement au fait qu'il était prêtre ?
Oui, non, il faut dire que c'était la langue courante dans les milieux scientifiques, et tu sais bien l'importance, l'hégémonie du religieux qui dirige un peu toutes les sphères à cette époque. Donc le latin, c'était la langue savante, on peut dire. Et toutes les références des lettrés allaient fort puiser aux sources romaines, aux sources grecques. Et bien sûr, comme tu disais, les notions, les préceptes moraux, etc., il convenait parfaitement, que tu puisses chez Aristote ou Cicéron, ça va vraiment s'adapter au jeu. Donc le latin était très porteur de toutes ces questions et ces analogies.
Alors, je vais citer trois titres de chapitres qui illustrent, hein, ce dont on vient de parler dans cette première partie. Bah, tout simplement, déjà, tu as parlé de la langue des sciences pour le latin. Le chapitre premier de ce livre 1, donc, hein, puisque ce livre est décomposé en fait en quatre sous-livres, en quelque sorte, si vous voulez, parce qu'il lui-même renumérote en fait les chapitres à partir de 1 dans chacune de ses parties. Donc c'est pour ça que j'ai présenté ça comme quatre livres internes. Donc chapitre premier, du jeu d'échecs comme jeu scientifique et invention mathématique. Alors dans ce chapitre, il justifie l'appellation de science et de dimension mathématique du jeu d'échecs, quelque chose que d'ailleurs on continue à rappeler encore aujourd'hui, que même Philidor d'ailleurs précise dans sa préface, en citant Leibniz, grand mathématicien du 18e, et qui lui aussi disait que le jeu d'échecs était une science. Donc bon, donc ça date déjà de Ruy López. À noter aussi, tiens, petite parenthèse, que on dit souvent que le terme de reine a été remplacé par dame à cause de la Révolution française, et on s'aperçoit en lisant le Ruy López que c'est pas le cas. C'est-à-dire lui-même utilise soit reine, soit dame, il le dit d'ailleurs, on dit soit l'un, soit l'autre.
Exact. Et pour appuyer ce que tu dis sur le côté scientifique, quand on dit de nos jours calculer des variantes, il ne faut pas oublier que calculer, c'est calculus, c'est les pierres, et ça a quand même un rapport avec cette manière de compter, de mettre en place les pièces. Et c'est une vieille notion hein, du jeu qui est magnifiée dans le jeu d'échecs.
Ouais, et que Ruy López explique très bien, et notamment il fait référence à ce terme romain, latin, donc calculus, effectivement, pour essayer d'expliquer pourquoi on dit calculer à la place de jouer, d'ailleurs. Et alors, chapitre 2 maintenant, tu as parlé tout à l'heure de qualité morale et du fait que le jeu était louable, il met beaucoup l'accent là-dessus. Alors chapitre 2, des jeux et loisirs louables, voilà, il va opposer les jeux et loisirs louables à ceux qui ne le sont pas. Alors je crois qu'il faut rappeler qu'il y a une période où l'Église justement interdisait un peu tous les jeux, dont le jeu d'échecs, parce que c'était considéré souvent comme du vice, notamment en particulier les jeux de hasard, hein, les jeux où on jouait avec des cartes ou des dés.
Et donc c'était les jeux d'argent.
Et notamment les jeux d'argent, mais là en l'occurrence c'est plutôt le sujet du jeu de hasard hein, qui devait être vraiment interdit, puisque Ruy López ne s'empêche pas de dire qu'on fait des paris sur les parties, dans le livre, puisqu'il explique que selon le résultat, nul... ou alors si on prend toutes les pièces de l'adversaire, qui est une partie particulière, si on prend le dernier pion de l'adversaire, la partie s'arrête, selon Ruy López aussi, on ne continue pas forcément jusqu'au mat, il y a le mat, et puis la partie nulle, et bien à chaque fois, il y a les enjeux de Paris sont différents, il l'explique. Donc apparemment, cette histoire de Paris n'est pas forcément ça qui gênait l'Église, c'était plutôt le hasard.
Oui, c'est vrai, parce que là, il y avait un partage de moitié des enjeux, c'était une manière de... comme un trésor de guerre, par exemple, toujours dans ces parallèles faits avec le roi, que l'on mate, ou bien que l'on fait pâte, c'est-à-dire que c'est plus un étouffement qu'un emprisonnement. Il y avait des notions de territoire à conquérir, et donc de butin. Donc, tout ça était tout à fait justifié.
Ouais. Oui, effectivement, notion de butin, effectivement de rapport de guerre, ouais, et de prise de guerre avec les rançons qui vont avec. Et alors, pour citer encore des titres de chapitres très, très, très parlants, rien qu'au niveau du titre, hein, sans même parler des contenus. Chapitre 3, de qui fut l'inventeur de ce jeu, donc déjà recherche historique. En quel temps ce jeu fut inventé? Alors là aussi, c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça très intéressant. C'est très court ce chapitre, ça fait une page, mais il explique, il donne des références historiques... par rapport aux Olympiades grecques, par rapport à Alexandre le Grand, par rapport à...
Xerxès aussi.
Ouais, Xerxès, exactement. Donc c'est intéressant de voir comment il met ces époques en rapport et la façon même dont il parle des dates. Voilà, c'est ça qui est prenant, je trouve. Il parle de la cause de l'invention de ce jeu. Ils sont déjà attachés à cette époque à trouver les causes aux phénomènes et pas uniquement de s'occuper des phénomènes, mais de savoir de quelle cause ils proviennent. Donc de la cause, évidemment, il suffit pas de dire ce jeu a été inventé, mais pourquoi il a été inventé finalement. Alors ça c'est très intéressant comme chapitre aussi, même s'il y a des limites autour de ça, mais justement c'est bien de voir comment il pouvait en parler au XVIe siècle, il était plus proche de l'origine du jeu qu'aujourd'hui évidemment.
N'oublions pas que le titre du livre c'est « Livre de l'invention libérale », donc on sent déjà qu'on va peut-être arriver vers les temps pré-scientifiques.
Ouais, c'est vrai, ouais, parce qu'on parlait des arts libéraux...
Exactement.
Aux époques antiques, voilà, chez les Romains, en fait. Alors, c'est pas libéral au sens traditionnel qu'on connaît aujourd'hui, évidemment, c'est libéral au sens des arts libéraux, qui étaient, en fait, essentiellement la littérature, l'astronomie, les mathématiques.
La philosophie.
Voilà, bon, alors des sciences plus ou moins certaines et des sciences plus ou moins floues. La musique aussi en faisait partie, voilà, donc c'est pas. Voilà, il y a à la fois les sciences et les arts là-dedans. Et la science aussi, voilà, donc bref. Et alors, il parle aussi, donc, dans cette première partie, toujours, qui est très longue, hein, c'est gros. Il y a 4 livres, comme je l'ai dit, mais cette première partie fait un bon tiers, hein, un bon tiers du total, avec toutes ces explications. Et il parle aussi de la forme et lieu, c'est-à-dire la place que tiennent les pièces sur l'échiquier, leur forme aussi, donc de la forme, lieu et la marche du roi, comment le roi donc bouge, quelle est sa forme, où il se trouve, et il va faire ça pour toutes les pièces. La forme, lieu et marche des cavaliers, forme lieu et marche des fous, de la reine, etc. Donc il va décrire chaque pièce en rapport avec les temps supposés de leur invention. Et ça, pour ça, il fait référence à Jacobus de Sessolis, dont tu as parlé tout à l'heure.
Oui, et il décrit également certains attributs, quelquefois allégoriques, des pièces.
Oui.
Pour le roi, par exemple, qui tient en sa main une boule qui représente le royaume, l'orbe, et aussi du pouvoir, la place du fou, de case blanche, qui est censée accompagner le roi dans sa mission de justice, de libéralité, de commandement. C'est ça qui est très intéressant.
Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Alors que c'est des choses qu'on a un peu oubliées, on se pose pas trop la question de la raison historique qui fait que ces pièces ont pris la forme qu'elles ont moderne aujourd'hui, qui est une forme assez stable maintenant depuis quasiment deux siècles. Hein. On peut dire que ça bouge plus trop, mais anciennement ça a un peu bougé, et ça a bougé pour des raisons sociales. Hein. Ça a représenté un certain ordre. Et puis donc voilà, il donne effectivement aussi des raisons pour lesquelles tu disais tout à l'heure les cases blanches sont en droite, voilà, donc c'est très très long. Et puis alors il y a aussi les conseils, alors c'est un très long chapitre, ça c'est le chapitre 27 de la première partie. Donc conseils aux règles générales du jeu, ainsi que les règles du jeu de l'époque. Alors évidemment là il y a quand même des petites différences, c'était pas tout à fait le jeu d'échecs tel qu'on le connaît aujourd'hui en fait.
Ah oui, il y a les bons principes concernant les pions qui sont toujours valables, mais il y a certains mouvements qui eux n'existent plus, ont été simplifiés. Je pense, si c'est bien de ça que tu veux parler, du roi qui saute.
Oui, bien sûr.
En fait, le roi qui saute pour s'échapper d'un échec fait un mouvement de cavalier, en gros.
Alors, attends, non, pas sur le roi qui... Le roi qui saute, il peut pas sauter s'il est en échec, justement.
Qui peut s'échapper en anticipant un échec, je voulais dire. Mettre à l'abri, voilà.
Mais disons, le premier coup du roi, voilà, il a le droit de bouger de deux cases, mais pas forcément comme un cavalier, il peut aussi bouger comme un fou. D'ailleurs, on a un exemple de partie où il bouge de deux cases comme un fou. En fait, il bouge de deux cases où il veut. Donc, en fait, voilà, c'est-à-dire qu'il est comme une dame, en quelque sorte, presque, mais de deux cases. Voilà, il peut faire ça. Donc, c'est l'ancêtre du roc, en fait, en quelque sorte.
Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait des noms des pièces, des formes qui ont maintenant n'ont plus trop bougé, liées à la compétition, etc. Quand on va dans les musées de jeux d'échecs, on voit une multitude de formes, de pièces à travers les époques qui montrent que c'est très riche. Mais après, les noms, comme le roc, tout ça, c'est venu petit à petit, ça s'est formalisé, ça s'est stabilisé, disons. Alors que ce mouvement du roi qui saute, ça a sauté, justement.
Règle
a sauté, parce que peut-être... alors ça, je ne saurais pas donner d'explication, sinon que ça simplifiait peut-être le jeu, ça le réduisait, tandis qu'un roc, on sait que le roi est à l'abri, que la tour peut se développer vite...
Oui, alors je suis pas sûr qu'il y ait des raisons vraiment objectives à ça. D'ailleurs, Ruy López, lui, défend le roi qui saute. Il parle déjà du roc à l'époque qui existe, puisque, en fait, les règles ne sont pas les mêmes partout. Il en parle du roc, dans cette première partie, puisqu'il dit dans certains endroits d'Italie, le roi bouge de deux cases et la tour vient se mettre à côté. Et il y a même des endroits d'Italie où le roi bouge d'autant de cases qu'il veut sur la première rangée, en fait. C'est-à-dire qu'il peut même bouger de 3 cases, ou voire même de 4 cases. C'est-à-dire qu'il va où il veut sur la première rangée, remplacé ensuite par la tour. Voilà, donc il y avait plusieurs façons d'envisager le roc à l'époque, et surtout en Italie. Voilà. C'est de l'Italie que cette pratique comme ça du roc a donc existé et a dû se développer. Et puis bon, mais les joueurs, je sais pas, ont dû trouver...
Oui, on peut justement se demander si Ruy López, c'est une hypothèse, n'a pas voulu harmoniser les règles pour qu'il y ait une manière de jouer qui soit comprise par tout le monde et que chacun n'ait pas, selon la latitude, ses propres règles. Sinon, on pouvait pas jouer.
Oui.
C'est pas possible.
Ah oui, non, mais là, tu touches un point très important. Effectivement, je pense que Ruy López était déjà un joueur très renommé puisqu'il avait écrasé tous les joueurs italiens. Donc, il est allé jouer sur leur terrain. Donc, il avait sans doute... il devait déjà sans doute jouer à la mode italienne. Bon, il était à Rome, alors peut-être qu'à Rome on jouait pas à cette histoire de roc, hein, puisqu'il disait certains endroits d'Italie, donc il n'a pas précisé Rome. Mais comme il avait écrasé un peu tous les grands joueurs et sa renommée était grande en tant que joueur d'échecs, donc il était légitime pour écrire ce livre, et effectivement il a essayé d'en profiter pour asseoir les règles telles que lui les proposait. Alors s'il a perdu quelque part, on peut dire, il a perdu la bataille sur l'idée du rock, dont il disait c'est pas une bonne idée parce qu'on bouge deux pièces à la fois, il n'y a pas de jeu où on joue deux pièces à la fois. Donc c'est normal que le roi saute plutôt de deux cases. Et il explique même pourquoi le roi saute de deux cases, parce qu'en lui, c'est le roi, donc en lui doivent se retrouver toutes les qualités des autres pièces. Donc il y a au moins un coup où il peut jouer presque comme toutes les autres pièces. Voilà. C'est-à-dire qu'il arrive à jouer comme un cavalier, comme un fou, comme une dame, comme une tour. Pour, au moins pour un coup, ce qui veut dire qu'il a, il a toutes les vertus. Voilà.
Donc, il a, et le respect du monarque. Le respect, que voilà. On est à l'époque de Philippe II.
Et oui, exactement. Alors il dit ça. Alors, et par contre, il y a un point sur lequel il va gagner. Donc ça, c'est très important à noter. C'est la prise en passant. La prise en passant qui n'est pas pratiquée en Italie du tout, apparemment d'ailleurs, puisqu'il dit à la mode italienne. Il donne quelques variantes, quelques parties d'ailleurs. À la mode italienne, c'est pas la majorité. La plupart, la 80% des parties, c'est avec la prise en passant. Mais c'est lui qui va insister pour dire la prise en passant, elle est logique. Il n'est pas normal que le pion puisse échapper en quelque sorte à la prise ennemie en bougeant de deux cases. Voilà. Donc il le justifie aussi, mais là, il aura raison. Alors que l'histoire, finalement, après, derrière, lui donne pas raison sur le rock, où c'est le point de vue italien qui va finir par l'emporter, mais tard, hein, parce que, d'après mes petites recherches, hein, et j'ai demandé d'ailleurs à Nicolas Giffard qui m'a confirmé ça, le rock n'a été généralisé qu'à la fin du 19e. Voilà. C'est-à-dire que c'est arrivé très tard, et c'est arrivé à peu près à la même époque où Stenitz a été... sacré justement champion du monde. Alors peut-être que justement
c'est... Non, Philidor pratiquait le rock, il n'y avait pas de roi qui saute.
Philidor pratiquait le rock, mais déjà en Italie encore à cette époque, on ne le pratiquait pas. C'est bien là le truc. Voilà. Alors il y a un autre truc aussi, très important, alors c'est pas tellement sur les règles de mouvement des pièces, où à part cette histoire de roi qui saute, finalement tout est équivalent. C'est en fin de partie, il y a une façon de terminer la partie spéciale, qui est, on prend la dernière pièce de l'adversaire, il n'a plus que le roi, donc il n'est pas en échec, il n'y a rien de spécial. Normalement, nous, par exemple, si on prend la dernière pièce de l'adversaire et qu'il nous reste roi et tour contre roi, et si l'adversaire veut continuer à jouer, il faut démontrer qu'on peut mater, et notamment mater en moins de 50 coups. Alors ça, la règle des 50 coups, il en parle d'ailleurs, donc elle existe déjà, donc c'est une règle très ancienne, puisqu'elle existe déjà en 1561,
Je t'interromps, ce qui paraît logique, parce qu'il n'y avait pas de pendule à l'époque, donc il valait mieux à un moment donné que les parties s'arrêtent, sinon c'était...
Alors peut-être,
interminable.
Peut-être, mais il n'en parle pas, il ne dit pas que c'est la raison. Il dit qu'il y a une façon de terminer le jeu, il appelle ça robado en espagnol, robado, ou rapito, il dit aussi à un autre endroit, ce qui veut dire en gros voler, on a tout pris, on a tout dérobé, si vous voulez. J'ai traduit ça par liquidation, la liquidation, parce que c'est un terme qu'on emploie au jeu d'échecs et qui veut bien dire qu'on prend un peu toutes les pièces ou qu'on simplifie la partie. Donc si on prend la dernière pièce d'adversaire, il n'a plus que le roi, c'est une liquidation, robado en espagnol à l'époque, et dans ce cas-là, la partie s'arrête, même si on a de quoi mater. Et c'est pas considéré comme un mat, c'est considéré comme inférieur. C'est une victoire, mais c'est une demi-victoire. C'est-à-dire que si un pari, on ne prend que la moitié de la mise de l'adversaire et pas la totalité, c'est ce qu'il explique. Et ce qu'il veut dire, et ça c'est extraordinaire, moi j'ai pris beaucoup de temps à essayer de comprendre ça, parce qu'au début je comprenais rien, c'est en y revenant plusieurs fois que j'ai fini par comprendre. Il explique que la fin de partie où il y a roi plus dame contre roi et pion, si le pion adverse est à deux cases de fer dame, on peut gagner. Alors que ça nous paraît évident qu'on peut gagner. Parce qu'aujourd'hui, on sait que roi et dame contre roi et pion, si le pion est à deux cases de dame, ça gagne de façon évidente. Il suffit de prendre le pion, justement, et ensuite on mate avec roi et dame facilement. Mais en fait, on ne peut pas prendre le pion, selon Ruy Lopez. Enfin, on peut, mais si on le prend, on ne fait pas mat. Donc si on veut mater, il faut empêcher à la fois le pion de faire dame et mettre mat le roi adverse avant que le pion fasse dame ou au moment où il fait dame, arriver à le mater à ce moment-là. Donc il faut mater sans prendre la dernière pièce. Et ça complique évidemment la fin de partie.
Bien entendu.
Et oui, donc il faut bloquer le pion, il explique, alors la manœuvre et tout ça. Et alors j'ai dû vérifier qu'il avait raison. Il dit on ne peut gagner que si le pion est sur les colonnes alors A, B ou G, H. Et que s'il est en... Ou c'est l'inverse, non, il ne faut pas qu'il soit justement sur les colonnes AB ou GH, il faut qu'il soit sur les colonnes CD, je crois, voilà, c'est ça le truc. CDEF, en fait, voilà, s'il est sur CDEF, le pion, ça marche, on peut mater, mais s'il est sur AB ou GH, on ne peut pas forcer le mat, parce que Bah, il y a une manœuvre, alors faut l'étudier en détail pour comprendre, mais en gros, voilà, si pour mater, il faut emmener le roi quelque part dans un coin, et le roi qui bloque le pion se trouve trop loin, en fait. Le temps qu'il arrive, on a le temps de faire dame et d'empêcher le mat. Voilà. Voilà, en gros, donc pour cet aperçu des règles du jeu, hein, et des conseils. Alors, sur les conseils, est-ce que tu te rappelles un peu, est-ce que tu, sur ta lecture, il y a des conseils marrants, non?
Oui, alors, il y a des choses. Les conseils tout à fait logiques. Comment ouvrir une partie, bien positionner ses pièces, ça existe toujours. Et il y a d'autres choses plus étonnantes où il parle de comment un petit peu déstabiliser l'adversaire, etc. Ça, c'est plus étonnant de sa part, tout d'un coup. On ne sait pas pourquoi ça vient là, mais c'est très amusant.
Oui, et surtout, oui, c'est pas commun. Alors notamment, il dit par exemple, si on joue au soleil, il faut mettez-vous le soleil dans le dos, comme ça le soleil sera de face. Et ça le gênera.
On est d'accord, c'est très anecdotique, c'est pas du tout l'esprit de Ruy López qui est vraiment sérieux, courtois, poli, là, c'est peut-être... Oui. Il veut s'adresser à un public plus large, je sais pas si on peut dire ça pour un livre de cette époque-là, mais pourquoi pas.
Voilà, mais donc il rappelle que les conditions de jeu peuvent influer aussi sur le résultat. D'ailleurs, on peut quand même rappeler aussi, pour faire des rapports modernes, que le match, par exemple, Fischer-Spassky, c'est joué en grande partie sur ce qui s'est passé autour du jeu et pas uniquement sur le jeu. Parce que Fischer a imposé ses conditions et même Spassky, encore récemment, a dit que c'était peut-être une erreur de sa part d'avoir accepté les conditions posées par Fischer, que ça l'a mis dans une position psychologique qui n'était pas forcément idéale, quoi.
Oui, et puis c'est un conseil indirect pour dire pensez à être bien assis, bien positionné. Vous laissez pas avoir justement par ce genre de choses, mais il le dit d'une manière humoristique finalement.
Oui, d'abord, bon, c'est très court, hein, c'est des petits conseils bon, qui arrivent quand même en fin de chapitre, mais sont amusants. Et notamment, il dit aussi, d'ailleurs, s'il y a une bougie, si vous jouez de nuit, arrangez-vous pour que la bougie soit du côté de sa main droite, comme ça, ça créera une ombre qui le gênera quand il jouera ses coups.
Oui.
C'est quand même marrant. En tout cas, c'est amusant quand on le lit, parce qu'on ne s'attend pas à trouver ça hein, dans un livre d'échecs.
Il y a pas Exactement. Beaucoup. Il a dû sentir qu'il fallait mettre un petit peu d'humour pour rendre le traité encore plus fluide. Ce qu'il est d'ailleurs, parce que ça se lit avec beaucoup de bonheur et de facilité et d'intérêt.
Voilà. Alors, sur cette première partie, est-ce qu'il y a d'autres points que tu voudrais souligner, peut-être?
Bon, sur cette partie, non, parce que après, ce qui est intéressant, c'est quand il rentre dans le vif du sujet et qu'il montre la manière de commencer une partie avec les pions rois, par exemple. Là, vraiment, on rentre dans les échecs modernes et tout ce qu'il a pu décrire, parce qu'il y a une partie où il décrit exactement comment poser les pièces, les lieux, comme tu disais tout à l'heure. Et il rentre vraiment dans le détail de... des cases, parce que le joueur d'échecs, de tout temps, il est mieux pour sa compréhension du jeu et pour éventuellement jouer à l'aveugle, parce que toujours on continue à réfléchir à une partie, de bien savoir où sont les cases, blanches, noires, etc., puisqu'on peut continuer à y réfléchir sans avoir l'échiquier sous les yeux. Et ça, cette description est assez importante de sa part, je trouve.
Oui, alors après, donc on va parler... Eh bien, dans ce qui va suivre sur Fréquence Diagonale, toujours, bien sûr, de ce Ruy López. Alors, avant de faire une première pause musicale, on va parler aussi, Pierre, pour continuer, de l'époque en général de Ruy López. Quelques mots, on est un peu obligé quand même d'essayer de situer aussi ça, parce que c'est quand même très important. L'Espagne du XVIe siècle, qu'on appelle souvent aussi ce XVIe siècle, pour l'Espagne, le siècle d'or, parce que c'est vraiment l'apogée hein, de la puissance espagnole. Hein, alors, c'est rappelé un petit peu dans la préface aussi du livre, ce XVIe siècle. Il y a deux grandes dates hein, en fait, qui l'encadrent. 1492, donc fin du 15e, évidemment découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, ce qui va ouvrir des routes pour l'Espagne vers l'Amérique et qui va leur permettre de ramener beaucoup d'or et d'argent des mines du Pérou notamment en particulier. Puis ils vont conquérir les empires là-bas, conquérir les territoires, donc ça va être une grande épopée espagnole. Mais 1492, c'est aussi la même date où la reconquête de l'Espagne par les rois catholiques sur les Maures, il faut savoir que les Maures, justement, occupaient l'Espagne depuis 7 siècles, Et petit à petit, la Reconquista, on appelle ça en Espagne, la Reconquista, la plus grande période historique de reconquête du territoire par les catholiques, termine en 1492 avec la reddition du dernier émir mort à Grenade. Il s'appelait Boabdil. Alors ça, c'est son nom contracté. Hein. Le nom est beaucoup plus long, je ne vais pas le remettre ici. C'est pas un nom européen facile à retenir. Donc, mais Boabdil, le roi mort, qui a décidé quand même, malgré qu'il ait rendu les armes, de rester à Grenade et de finir sa vie à l'Alhambra. L'Alhambra qui est à Grenade, qui est le château, hein, qui veut dire le rouge en arabe, je crois bien. Voilà, et donc qui est aujourd'hui mondialement connu, qui est un très très beau château à visiter encore, et qui déjà donc existait à cette époque-là. Voilà. Donc 1492, double clé pour l'histoire de l'Espagne, reconquête terminée pour les catholiques, découverte du trajet vers l'Amérique, et donc Charles Quint qui arrive derrière, et Charles Quint qui est un très grand roi, et on a même un empereur, dont on disait d'ailleurs que le soleil ne se couchait jamais sur ses terres, puisque comme il avait aussi l'Amérique, ça, il y avait toujours de la lumière sur ses terres, et notamment aussi parce qu'il régnait, je ne sais pas si on peut dire posséder, mais il régnait sur une partie très importante de l'Espagne, mais surtout...
Et de l'Europe actuelle.
Et de l'Europe, voilà, de l'Europe, puisqu'il faisait partie d'une famille régnante où il a hérité alors de parties d'Italie, de je sais pas s'il n'y avait pas l'Autriche avec, il y avait aussi les Flandres. Les Flandres, la Belgique, par exemple, si vous allez à Bruxelles aujourd'hui, il y a des rues Charles Quint. Il y a même des auberges à la mode espagnole. Voilà, il y a encore des traces de cette présence espagnole ancienne et de Charles Quint. Voilà, donc c'était un roi un empereur qui régnait vraiment sur très très grande vaste étendue, et donc cette Espagne était très puissante. Et alors on retrouve d'ailleurs à ce sujet-là la thèse de Nicolas Giffard, qui est que les champions du monde ou les meilleurs joueurs d'échecs de leur temps coïncident avec la période d'apogée économique voire militaire de leur nation. Voilà, c'est-à-dire que on a eu l'affrontement URSS-USA au XXe siècle, et les seuls champions du monde qu'on a eu, c'était des Russes ou des Américains, puisqu'il y a eu soit Bobby Fischer, soit les Russes. Et puis, avant ça, il y a eu Philidor à la grande époque française, il y a eu Staunton, l'anglais, à l'époque anglaise, il y a eu Stenitz à la grande époque de l'Autriche et de l'Allemagne, avec Lasker aussi, et puis donc Ruy López à la grande époque de l'Espagne, et puis avant lui, les grands joueurs arabes, hein, comme Al-Sulli, lors de la grande période arabe. Voilà, donc c'est la thèse développée dans son histoire du jeu, qu'on retrouve ici bien marquée. Alors à noter aussi que la deuxième date, hein, qui encadre ce XVIe siècle et qui encadre la vie de Ruy López, puisque Ruy López meurt en 1580, la deuxième date c'est 1588, qui est la défaite de la Grande Armada, ou l'Invincible Armada, finalement qui n'était pas invincible. Et qui se fait donc abattre par la flotte anglaise. Ils ont tenté une invasion en Angleterre, ou en tout cas de mettre au... En fait, ils voulaient mettre au pas Elisabeth Ier, qui était protestante, et qui voulait chasser en quelque sorte la religion catholique d'Angleterre, et ça plaisait pas à Philippe II, qui était un fervent catholique.
Voilà. Fils de Charles Quint, donc.
Fils de Charles Quint, exactement. Et donc, il met en place cette grande armada, sachant que déjà à l'époque, ils étaient très forts sur les mers, puisqu'ils allaient beaucoup... Ils ont beaucoup affrété de bateaux pour aller en Amérique et en revenir. Voilà, les fameux galions espagnols, c'est cette époque-là. Voilà, donc et là, 1588, la flotte coule, et c'est le début de la fin pour le grand empire espagnol. Après, c'est une longue suite de chutes pour l'Espagne. Après siècle, l'Espagne va perdre de sa superbe au niveau politique, militaire et même économique. Voilà, donc pour dire quand même que ce siècle est vraiment un apogée, une apogée pour l'Espagne, et Ruy López en est la manifestation du point de vue échiquéen, quoi. Voilà. Alors, est-ce que toi, tu connais un petit peu cette époque, ou qu'est-ce que...
Non, je ne suis pas un historien spécialiste. Je connais tout ce que tu as dit, effectivement. On l'a appris à l'école. L'Espagne rayonnait. Et on imagine que Ruy López, à travers ça, continue cette hégémonie, veut continuer cette hégémonie, ce rayonnement, je dirais même, à travers son livre. Et donc, toutes les périodes de faste, de gloire pour un état d'âge d'or font que les grands esprits s'expriment, c'est important. Ruy López en est la manifestation, l'incarnation.
Oui, l'incarnation. Et puis la le début aussi de quelque chose, puisqu'on appelle Ruy López le père de la théorie. Hein, le père de la théorie pour ses apports théoriques, mais aussi donc pour ses recommandations sur les règles mêmes du jeu. Hein, puisque évidemment, les règles précèdent la théorie. Donc si les règles précèdent la théorie, il n'y a pas de théorie sans que les règles soient établies. Si les règles précèdent, et bien donc on est sur le père et non pas le fils, en quelque sorte. Voilà,
lui-même, Ruy López s'est appuyé à citer ses sources, parce qu'il y avait effectivement son voisin qui l'a précédé d'une cinquantaine d'années, je suppose, Damiano, au Portugal.
Voilà, donc on va en parler justement dans la deuxième partie. Donc si tu veux bien, on va faire une première pause musicale. Et puis dans la deuxième partie, on va commencer à rentrer dans le livre d'un point de vue strictement maintenant échiquéen, avec les parties 2, 3 et 4, qui sont là par contre des conseils techniques avec les parties. Et dans le livre, c'est sous format algébrique, avec les commentaires de Ruy López, bien entendu, traduits, qui permettent de revoir ces conseils. Et puis donc une organisation particulière dont on va parler tout de suite, donc après cette pause musicale sur Fréquence Diagonale. A tout de suite. Thank you. Nous voilà donc de retour à Ruy Lopez, 16e siècle, donc réédition de son livre « Livre de l'invention libérale et art du jeu d'échecs ». Alors on est toujours avec Pierre Tesserin qui est avec nous. Et donc on va continuer la découverte de ce livre et de cette grande époque pour le jeu d'échecs, de cette fondation théorique et pratique aussi au niveau des règles du jeu. Alors comment on peut décrire après donc ces trois parties qui suivent cette première présentation, cette introduction très longue, hein, un tiers du livre, sur les fondations, disons, la justification du jeu, son histoire, etc. Donc les parties, les livres 2, 3 et 4.
Alors je dirais que tu vas être mieux placé que moi pour donner exactement l'ordre et la teneur de ces chapitres, mais on arrive déjà dans le manuel d'échecs proprement dit, avec des parties exemples, des actions, comment le jeu se pratique, comment les règles, on l'a vu, qui étaient disparates, se voient un petit peu harmonisées, et le côté concret, ce sont les variantes, l'analyse, comment ne pas se découvrir, comment bien attaquer, comment se développer. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant, d'autant plus que ce sont des ouvertures, historiques, en ce sens qu'elles sont moins pratiquées maintenant, mais elles délivrent vraiment toute la quintessence du jeu, c'est peu de le dire.
Oui, c'est-à-dire qu'elles sont encore tout à fait praticables et intéressantes même à pratiquer pour des débutants. C'est-à-dire que même pour des joueurs un peu aguerris qui veulent progresser tactiquement, puisqu'on est face à des débuts ouverts, des débuts du pion du roi. Alors évidemment, le fait qu'il n'y ait pas le roc change un petit peu la nature des ouvertures, mais il y a beaucoup d'ouvertures qui se joueraient de la même façon aujourd'hui, malgré ça.
Oui, tout ce qui est gambit ou construction lente du centre, par exemple avec C3, D4, effectivement c'est extrêmement instructif, plus les attaques assez direct, on n'a pas la stratégie positionnelle d'aujourd'hui. C'est une époque où très rapidement on cherche à attaquer, on met les fous en C4, C5 pour les noirs.
C'est ça
qui est intéressant. Ce sont en quelque sorte des bases. Je pense qu'on dit toujours aux jeunes joueurs qu'avant d'étudier D4, c'est plus intéressant d'étudier E4, les parties italiennes par exemple.
Ouais.
Et là, vraiment, on est en plein dedans.
Oui, c'est exactement ça. On est effectivement dans ces débuts ouverts qui sont essentiels à pratiquer, sans doute, pour ceux qui débutent, mais même pour les joueurs aguerris. Il y a des joueurs, d'ailleurs, qui ne changent pas, qui jouent toujours des débuts ouverts. Hein. Il y en a eu, même ne serait-ce qu'en France, tiens, citons, puisque tu es des Landes, Laurent Fresquinet, c'est quand même un grand adepte de E4. Hein.
Oui, mais il joue beaucoup de 4 maintenant.
Ah, il a changé. Ben oui, mais alors il est passé un peu à autre chose. Mais en tout cas, pendant très longtemps, il a joué quasiment exclusivement E4. Hein,
Ou
presque tout le temps, un peu à la Fischer hein, d'ailleurs.
Ouais.
Et Fischer aussi qui jouait tout le temps E4. Donc voilà, donc les débuts ouverts, on peut aussi les pratiquer tout le temps. Alors il y a beaucoup de débuts qu'on appellerait aujourd'hui italiens. Alors évidemment, à l'époque, ça ne s'appelle pas italien. D'autant que Ruy Lopez est espagnol. Mais c'est Gréco qui va donner ce nom-là avec son livre, sans doute, qui va apparaître après celui de Ruy Lopez, plus tard, au siècle suivant, en fait, hein, le fameux Gréco. Mais alors, beaucoup, effectivement, de pions rois, mais alors pas que. Et puis, alors, on découvre aussi dans le livre 2, qui sont les recommandations de jeu de Ruy Lopez, alors quasiment des ouvertures de début du roi, mais on va aussi trouver. Une première explication de la possibilité de jouer du pion dame.
Oui, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est qu'il a déjà l'esprit de montrer les variantes. C'est pas juste une partie qui se déroule de manière linéaire. Il y a à certains carrefours, il y a 3, 4, peut-être 5 coups qui sont des variantes qui sont présentées, expliquées, qui sont très enrichissantes, vraiment très bien décortiquées par Ruy Lopez.
Oui, et notamment dans ces variantes, ce qui est vraiment très intéressant d'un point de vue pédagogique, c'est qu'il n'hésite pas à montrer des coups faux, justement pour montrer en quoi la suite permet d'assurer l'avantage à l'adversaire, quoi, en fait. Donc il montre par des exemples de ce qu'il ne faut pas jouer, finalement, pourquoi il ne faut pas le jouer. Parce qu'il ne suffit pas de dire il ne faut pas jouer tel coup, si on n'explique pas ce qui se passe, en fait, si on joue. Voilà. Et alors, lui, il le montre, en fait. Hein. Il n'hésite pas à montrer vraiment des variantes erronées ou mais qu'il réfute de façon claire, quoi.
J'avais remarqué qu'il aimait bien dire comment montrer quelle façon d'organiser le jeu. J'aime bien cette expression, organiser.
Ouais.
Il montre bien qu'il appuyait sa démonstration sur des coups qui sont constitutifs d'un bon développement, d'une manière harmonieuse de disposer les pièces en vue de construire ensuite un plan, une attaque. Mais organiser, c'est quand même la chose fondamentale.
Oui, on aurait pu traduire aussi par ordonner, mais je pense que le terme exact, enfin le terme le plus proche, c'était organiser, effectivement, pour le traduire. Mais oui, c'est bien, il explique bien une organisation. Mais d'ailleurs, on sent dans ces explications, puisqu'on va le voir après, on va parler du livre 3, où il va justement reposer son analyse sur une critique constructive du livre de Damiano, de Pedro Damiano. On voit cette difficulté qu'ils avaient à l'époque d'avoir une certaine objectivité sur l'explication. Et il insiste beaucoup là-dessus. Il dit, il faut, si on veut expliquer, même si on veut montrer une suite qui est avantageuse pour les blancs, trouver au moins pour les noirs des coups acceptables. Voilà, pas n'importe quel coup pour montrer une suite qui gagne pour les blancs, mais qui n'aurait pas d'intérêt parce qu'on jouerait que des mauvais coups. Voilà, faut montrer des coups à peu près corrects quand même pour montrer en quoi telle ou telle suite permet d'assurer un avantage ou pas. Voilà. Il insiste là-dessus, c'est-à-dire que c'était apparemment, en insistant là-dessus d'ailleurs, où il donne des explications sur cette méthodologie d'explication, il insiste bien sur cette objectivité qu'on doit essayer d'avoir en disant, ben, après ce coup faux, il faut quand même essayer de donner des bons coups pour montrer que la suite force quasiment le gain sans qu'on rajoute tout un tas de coups qui n'auraient pas de sens. Voilà, il faut quand même essayer de trouver des coups qui donnent des parties, disons, qui pourraient être jouées. Voilà, il dit ça un petit peu comme ça, et il insiste sur cette méthode d'explication. Voilà, donc on sent déjà poindre. Moi, j'ai l'impression que quand on lit ce traité, qu'on est vraiment avec cette recherche des causes dont on a parlé en première partie. Il cherche quelle est la cause de l'invention du jeu. Mais là, il cherche quelle est la cause du fait que finalement, ben, les blancs prennent l'avantage. C'est qu'à un moment donné, il y a eu un mauvais coup. Mais il faut essayer après de ce mauvais coup, de voir ben, si les noirs se défendent au mieux, par exemple si c'est eux qui ont fait un mauvais coup, est-ce que les blancs peuvent forcer quasiment l'avantage, mais à condition d'être précis. Voilà, faut pas faire jouer aux noirs une suite de mauvais coups qui va forcer le gain, parce qu'on n'aura rien montré au lecteur. On n'aura pas expliqué des choses en profondeur. Voilà, cette volonté d'essayer d'objectiviser l'explication causale de la suite de la partie, c'est-à-dire l'explication qui mène à l'avantage, qui mène au gain de la partie ou à sa perte. Voilà, donc une volonté d'être au plus proche finalement de la méthodologie scientifique, en fait. Voilà, on est dans ça, moi, c'est le sentiment que ça m'a donné.
Oui, et en même temps, une fois qu'il a montré l'avantage, il dit très souvent, et à partir de là, les blancs ont un avantage, le gain d'un pion, et doivent gagner s'ils savent jouer. Enfin, il estime que le lecteur a bien compris son explication, son argumentation, le pourquoi, et qu'ensuite, sur cette base, il peut continuer en jouant bien, mais s'il sait jouer, évidemment. C'est-à-dire que il a fait l'effort d'approfondir avec la démonstration, la variante exposée.
Oui, alors le terme espagnol très souvent utilisé. Alors, qui en fait, en gros, il disait que los blancos deben van a ganar ou ganarán si saben jugar. Voilà, donc s'ils savent jouer, ou pour peu, moi j'ai traduit souvent par pour peu qu'ils sachent jouer, ce qui veut dire la même chose, mais je trouvais plus précis. Voilà, par exemple ici, là, je suis sur le chapitre 25 de ce livre 2, et ensuite, donc les blancs gagnent le pion G5 ou le pion C7 selon ce que l'ennemi jouera, bon voilà. Et ainsi les blancs auront un meilleur jeu et vaincront pour peu qu'ils sachent jouer. Voilà. Évidemment, ils précisent, attention, vous vaincrez, mais encore faut-il que vous sachiez correctement jouer ce qui va suivre, parce que c'est gagnant, mais si vous faites des erreurs, vous allez perdre quand même. Voilà. Donc, c'est prudent.
Je ne sais pas, par contre, dans le texte original, puisque tu es parti d'un facsimilé du texte original, s'il y avait beaucoup de diagrammes, parce que là, dans ton ouvrage, il y a beaucoup de diagrammes, ce qui fait que pour nous, c'est très très facile à lire, à suivre, c'est très passionnant, mais déjà pour l'époque, est-ce qu'il y avait assez de diagrammes pour les lecteurs Ah oui, alors, lecteurs, j'imagine.
Bah, tu viens d'en parler, ça va me permettre de préciser la chose, effectivement. Donc, un fac-similé, c'est une copie, simplement une copie, c'est comme si j'avais eu l'original dans les mains, mais j'ai eu une copie, je ne vais pas travailler avec un original, bien sûr, ça, je risquerais de l'abîmer, ça ne serait pas une bonne idée. Mais oui, donc dans le traité original, il n'y a aucun diagramme. Voilà, c'est aucun diagramme et tous les coups sont notés en notation descriptive. Qu'est-ce que ça veut dire en notation descriptive ? C'est-à-dire qu'on explique les coups avec des termes comme, par exemple, pour dire le coup fou C1, C4, par exemple, on va dire le fou du roi sur la quatrième case du fou de sa dame. Vous voyez ? Donc c'est très long. Et tout ça, c'est traduit en notation algébrique par le simple fou C4. Voilà. Ou alors, on va dire, par exemple, si on veut dire le cavalier, par exemple, va sur la case H6, pour les blancs, un cavalier blanc qui irait sur la case H6 noire, on pourrait dire le cavalier blanc situé sur la... Alors, il faudrait savoir d'où il part. Alors, il pourrait partir de F5, par exemple. Situé sur la cinquième case du fou de son roi, va sur la troisième case de la tour du roi noir. Vous voyez ? Pour dire tout ça, pour dire cavalier H6, quoi.
Ce qui est incroyable, c'est que pendant très longtemps, cette notation descriptive a perduré. Parce que je me rappelle avoir acheté des livres dans les années 70-80. On trouvait beaucoup de livres, anglo-saxons notamment, en notation descriptive. Ce qui était un peu décourageant d'ailleurs.
Alors c'est décourageant, mais surtout aussi, ça nous renseigne sur le fait que les coordonnées justement cartésiennes, qui nous viennent de René Descartes, n'ont pas été du tout quelque chose de diffusé, de connu. Longtemps avant Descartes, quoi, ça n'existait pas en fait. Donc on peut se poser d'ailleurs de comment ils se repéraient sur les mers avec leurs cartes. Ça devait être sacré.
Les cartes étaient assez fausses d'ailleurs, les portulans, toutes ces cartes.
Ah, mais ils se trompaient, je crois, pas mal. Hein. D'ailleurs, ils n'arrivaient pas pile aux endroits où ils voulaient aller. Hein, je veux dire,
preuve, la découverte de l'Amérique a été un petit peu fortuite.
Ben, c'était un peu fortuite, mais je pense que les voyages qu'on suivit, bon, ils savaient à peu près où ils arrivaient, mais ils n'étaient pas à 100 km près, quoi, à mon avis, ça devait quand
ils
même...
Ils croyaient même aux Indes, je crois.
Ils croyaient encore aux Indes, oui, parce que pendant longtemps, c'est resté les Indes.
Oui.
Après, ils se sont rendus compte que ça devait être autre chose, parce qu'ils ne retrouvaient pas les Indiens tels qu'ils...
Les Indiens, d'ailleurs.
Qui supposaient qu'ils devaient exister avec leur civilisation, ils avaient une autre population, bon bref. Enfin voilà, donc les coordonnées, effectivement, on appelle ça numérique aujourd'hui algébrique, hein, c'est-à-dire A5, B5, la façon qu'on a de noter les cases avec les lettres et les chiffres, qui est extrêmement pratique, qui permet de noter les coups en trois lettres, hein, essentiellement. Hein, cavalier H5, ça prend trois lettres, hein, on écrit ça avec un grand C pour cavalier, et H5 pour noter la case H5, et bien évidemment tout ça prenait un temps fou à écrire, ça prenait parfois une ligne, deux lignes pour écrire le coup.
Sans compter que ça pouvait favoriser les coquilles.
Ça peut favoriser les coquilles, mais à la limite pas trop, parce que bon, si on se trompe sur... Bon, alors, c'est surtout, c'est très lourd à lire, voilà, c'est ça le problème, voilà. C'est que c'est très lourd à lire. Maintenant, à traduire, c'est pratique, parce que il y a deux phrases qui vont se retrouver condensées en trois lettres. Bon, donc pour la partie des coups, pour les coups eux-mêmes, ça va. Mais on est quand même obligé de tout lire, parce que entre ces coups, comme c'est quasiment inclus dans des phrases, il y a des commentaires qui se glissent. Voilà, hein, donc, parce qu'il va dire, le cavalier donc va sur la troisième case de la tour du roi adverse en mettant un échec au roi qui doit du coup aller sur la case du cavalier de sa tour. Bon, voilà, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc, et c'est la seule case qui lui reste, par exemple. Donc, on est obligé de mettre un petit commentaire en disant la seule case pour le roi. Quand il va jouer son coup. Voilà, donc il y a des petits commentaires qui se glissent comme ça au milieu des phrases, hein, ce qui fait qu'il y a un mélange entre commentaires et coups, puisque tout est du texte, qui n'est pas facile à lire. Alors aucun diagramme, alors qu'évidemment dans cette traduction, il y a quand même un diagramme ici tous les 4 coups quasiment, même tous les 2 coups parfois, il y en a beaucoup, quoi. Il y en a jusqu'à 4 par page. Je ne sais plus combien de diagrammes exactement,
oui,
mais
c'est ça.
Je crois que c'est 750 diagrammes, hein, voyez. Donc,
diagrammes par page, en gros.
Oui, il y en a 4 par page environ, voilà, il y en a vraiment ils sont très nombreux. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour permettre la lecture sans échiquer. Voilà, c'est comme ça, il y a très peu d'efforts mentaux à faire, il n'y a que quelques coups à faire de tête, et tout de suite on retombe sur l'échiquier, donc on ne perd pas le fil, et ça permet d'éviter de se traîner un échiquier avec soi, ce qui n'est pas toujours pratique pour lire un livre d'échecs, il faut avouer. Hein. C'est quand même mieux de pouvoir tout faire avec le seul livre entre ses mains, ça permet quand même une lecture aisée. Voilà. Donc et on note l'apparition de la défense scandinave. Hein, voilà, chapitre 29.
Donc Ruy Lopez, un des premiers à en parler finalement, même s'il n'emploie pas ce terme évidemment. E4-D5. Voilà, c'est quand même extraordinaire de savoir que ça, bah, Ruy Lopez y proposait ça déjà.
Il y a des... Bon, je me rappelle de positions aussi très intéressantes, quasiment modernes, où il explique comment briser la défense adverse, notamment les structures de pions par H4 sur G5 par exemple. Oui. Ça c'est très moderne, je trouve, c'est très intéressant. Et c'est...
Oui, il insiste beaucoup effectivement sur le terme de rupture. C'est-à-dire de...
J'ai même vu démantibuler à un moment donné.
Oui, alors là, c'est mes traductions. Hein, parce qu'alors
oui,
après,
c'est bien.
Voilà, alors le terme espagnol très souvent employé, c'est romper, ce qui veut dire rompre.
Bon,
c'est
oui.
Peu employé en français. Hein. Rompre, c'est un terme pas simple. Mais ça peut s'employer parfois. Je crois que j'ai traduit directement par rompre. J'ai varié parfois parce que ça dépendait des positions aussi. Mais en gros, la rupture, ça existe aussi quand même pour créer une rupture sur la chaîne de pion adverse. C'est un terme qu'on emploie aussi pas mal. Mais parfois aussi, il emploie aussi des termes différents, et voilà, et donc démantibulé, effectivement, dans ce cas-là, c'est qu'il n'a pas utilisé l'ompel, il a dû utiliser un autre terme, et bon, il y a des notes de bas de page, souvent, je mets, quand le terme est un peu différent, un peu nouveau, je mettais les traductions, enfin, j'ai mis le terme espagnol original, hein. Voilà, donc, pas tout le temps, mais très souvent, il y a quand même près de 400 notes de bas de page, hein, sur...
J'ai en mémoire, prendre sur la voie, ou des choses comme ça, comme... sur le chemin ou
oui.
La prise en passant.
Voilà, là, exactement, la prise en passant, évidemment aujourd'hui le terme c'est la prise en passant, donc il faut traduire comme ça si on veut traduire correctement, mais c'est bien de savoir qu'à l'époque le terme espagnol c'est tomar en la vía. Voilà, tomar en la vía, donc ce qui littéralement, si on traduit mot à mot, c'est prendre mais sur la voie au sens le chemin. Voilà,
oui.
Prendre sur le chemin, c'est-à-dire le pion se fait prendre en passant, c'est bien le terme, voilà. Donc Tomar en la vía, c'est quand même un terme voilà, qui est intéressant évidemment à noter.
Alors, dans les positions, ce qui est intéressant également, c'est...
Ah, il dit aussi, juste je t'arrête Pierre, il dit aussi un autre terme, il dit Tomar en la vía, mais il dit aussi Pasar batalla.
Ah, oui.
Alors, Pasar batalla, c'est quand on se met du côté du pion, si on joue à Pasar batalla, ça veut dire passer la bataille. Parce qu'il parle de la mode italienne de ne pas jouer la prise en passant, donc certaines ouvertures, il va expliquer, si on joue la mode italienne, alors l'ouverture, attention, il va falloir jouer un peu autrement, parce que du coup, il n'y a plus la prise en passant, on ne pourra pas faire le coup de la prise en passant qu'il y a dans l'explication précédente, donc il faut jouer un peu différemment. Donc il y a quelques parties, pas beaucoup, mais où il explique comment jouer à la mode italienne cette ouverture. Et dans ce cas-là, il dit, si jugamos a pasar batalla, qui est le terme qui prend le côté, cette fois, qui prend le parti du pion qui avance de deux cases, et il passe la bataille, il évite la bataille en quelque sorte, il évite de se faire prendre en passant par le pion adverse, il bouge de deux cases, mais l'autre ne peut pas le prendre à la mode en passant, donc en la vía, il ne se fait pas prendre en la vía, il passe la bataille, passa la bataille. Donc c'est intéressant à noter comme terme historique sur cette manœuvre, et qui donc à l'époque faisait déjà débat au moins entre l'Espagne et l'Italie. Quoi.
Mais je disais que dans les ouvertures échevelées, pour parler par exemple du Gambit 3, 4, 5, F4, on trouve des positions qui sont instructives pour le débutant, même le joueur un peu plus expérimenté, parce qu'on voit quasiment des attaques simultanées, si je puis dire, où on a un Dame H4 échec, mais les blancs ils vont faire une batterie avec le fou C4, la Dame B3, enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment le roi peut échapper à ses attaques sur F2, sur F7, etc.
Ouais,
c'est pour ça que dans ce genre de manuel, c'est important de l'avoir vu une fois pour savoir comment s'en tirer, garder son sang-froid dans certaines situations où vraiment les jeux sont très ouverts.
Oui, c'est-à-dire que les conseils de Ruy Lopez sur les parties elles-mêmes, sur les combinaisons, sur la façon de jouer, tous ces conseils qui sont expliqués textuellement, sur des exemples concrets, restent tout à fait valables. Hein, c'est-à-dire que ça serait dommage de passer à côté d'un apprentissage du jeu par en même temps l'apprentissage de l'histoire avec les anciens, quelle que soit la façon dont on le fait, bien sûr, que ce soit Philidor, bien sûr, que ce soit Ruy Lopez, que ce soit, pourquoi pas, bien sûr, le Gréco aussi, l'italien Gréco qui sera au 17e, enfin, avec les anciens, on retrouve finalement la découverte du jeu par des joueurs à une époque où le jeu est encore... En pleine réflexion, est encore en pleine découverte, et donc on retrouve des façons de découvrir finalement des trucs du jeu d'échecs dans l'ordre en quelque sorte. Voilà, on les découvre.
Et on redécouvre nous aussi quand on voit E4-5, Cavalier-F3, Cavalier-F6, on est déjà dans des ouvertures modernes, c'est oui. des questions qu'on se pose. Une fois qu'on prend E5 par exemple, Dame-7, enfin tout ça c'est très instructif, c'est vraiment presque des bases.
Oui, parce que ouais, exactement, on va découvrir la manœuvre fameuse de la défense russe, c'est-à-dire que voilà. Tu as raison de le signaler, puisque alors on a justement, alors ça nous permet de faire la transition, puisque c'est le chapitre premier du livre 3, qui est le chapitre où il va reprendre les idées de Damiano pour en critiquer certaines, pas toutes. Il y en a qui, notamment sur le gambit de Damiano, il va dire que Damiano avait quand même assez bien vu l'essentiel, même s'il va rajouter des variantes plus précises avec des gains encore plus nets pour les blancs. Mais il avait dit, Damiano avait quand même très bien expliqué ça. Et sur le chapitre premier de Damiano, bah, ça commence par une défense russe, E4-5, Cavalier-F3, Cavalier-F6, voilà, défense russe. Et Cavalier prend E5, et il explique, attention, sur le Cavalier prend E4, il y a Dame-2. Voilà, il y a Dame-2, et il va nous expliquer pourquoi, derrière, après ce coup Dame-2, c'est pas simple. Donc c'est quand même tout à fait intéressant, parce que c'est quand même le sujet des grands matchs Kasparov-Karpov, quoi. Hein.
Les grands débats théoriques, par siècle interposé, on voit que Ruy Lopez, reparlant de Damiano, le débat théorique continue, c'est ça qui a fait la progression finalement des ouvertures et qui a permis d'explorer toutes ces variantes que n'importe quel joueur, quand il arrive dans un club, tôt ou tard il est confronté, il passe par la même réflexion que Ruy Lopez.
Alors parlons de Damiano maintenant, puisqu'on arrive à ce livre 3, Pierre, alors comment tu as découvert toi ce chapitre sur Damiano? Est-ce que tu connaissais même l'existence de Damiano ou est-ce
oui, que... Damiano, oui, bien sûr, parce que il y a position de Damiano, il y a des parties dans les bases de données. Enfin, ça fait longtemps que je regarde plus les bases de données, mais tout le monde a vu des parties comme ça. Damiano, je savais qu'il avait précédé Ruy Lopez.
Oui.
Et donc, ce sont les premiers théoriciens. On ne peut pas ignorer tout à fait ça, comme le Gréco.
D'accord, mais tu est-ce que tu le situes? Parce que moi, par exemple, honnêtement, hein, sans détour, je connaissais le terme Gambit Damiano, mais je ne savais pas qui c'était, à quelle date, de quelle date il s'agissait. Alors, il faut savoir que le livre de Damiano sort en 1512, c'est-à-dire oui, 50 ans quasiment avant 1561, la sortie du Ruy Lopez. Damiano, effectivement, comme tu le dis, précède...
Oui, il est né en 1480, quelque chose comme ça.
Voilà, 1480 pour Damiano, alors que Ruy Lopez naît en 1530. Voilà, donc c'est vraiment deux générations quasiment distinctes. Il faut savoir que l'espérance de vie à l'époque, hein, c'est en gros 50 ans, hein, c'est pas plus. D'ailleurs, Ruy Lopez va vivre 50 ans. Et donc Damiano et Ruy Lopez se sont pas rencontrés, quoi, hein. Ils se sont connus par livre, enfin Ruy Lopez a connu Damiano uniquement dans ce sens-là, par livre interposé, mais donc il fait autorité, c'est ça qui est remarquable, moi, que j'ai noté, puisqu'il se sent obligé de reprendre dans son livre 3, bon, qui fait quand même une partie importante du livre, hein, c'est pas rien, bon, je dirais c'est un huitième, quelque chose comme ça à peu près du livre. Ce livre 3, il se sent obligé de reprendre les idées de Damiano pour les enrichir, les critiquer, les corriger, parce qu'effectivement il y a des corrections à faire, mais donc il se sent obligé, quoi, voilà. Donc ça fait autorité, oui. Ça veut dire que ça fait autorité.
Montrer quelques défenses qui n'étaient pas les meilleures, ou quelques coups qui étaient négligés, ou un entêtement du joueur à considérer que telle défense est par et tout, et là, il y a véritablement un enrichissement de la théorie, hein, si on peut utiliser ce terme par avance, avant la lettre, disons.
Ouais. Et effectivement. Mais à la fois aussi, ça signale le fait que Damiano était un des auteurs. Il n'y en avait pas, il y en avoir beaucoup à l'époque, parce que ça fait pas longtemps que l'imprimerie se généralise. Hein. Faut rappeler ça aussi. Donc c'est quand même on est sur des premiers livres imprimés en 1512. Bon, on est, il n'y a pas beaucoup de livres d'échecs qui ont été imprimés. Je crois qu'il y a le Lucena qui a dû être imprimé aussi. Je crois que
Lucena aussi, oui. Ouais, de toute façon, il y avait beaucoup de livres qui étaient recopiés. Hein,
les livres étaient recopiés plutôt qu'imprimés. Là, on est sur des livres imprimés, donc c'est les premiers livres imprimés. Et sur le jeu d'échecs, il ne doit pas en avoir tant que ça. Et le livre de Damiano est un des rares qui, enfin, ou peut-être un des seuls même tout simplement, qui fait une explication du jeu sous l'angle des ouvertures qu'on peut jouer, voilà, quelque chose de technique, parce que le Lucena, le livre de Lucena, qui paraît en 1495 ou 17, je sais pas, quelque chose comme ça, la date exacte je l'ai pas en tête, mais on est vraiment à la fin du 15e. Le livre de Lucena, il y a des positions de problème.
Unique. Oui, c'est ça, la position de Lucena, effectivement, avec un mat, avec une tour.
Alors, je crois pas que cette position soit dans le livre de Lucena, justement. On appelle la manœuvre de son nom, mais j'ai pas les détails. Mais ce que je sais, par contre, c'est, pour l'avoir parcouru rapidement, c'est qu'essentiellement, il n'y a pas d'ouverture, rien. Voilà, par contre, il y a des problèmes. Voilà, y a beaucoup, en fait, là, bizarrement, là, il y a des diagrammes, en fait. Chaque page, il y a un gros diagramme, en fait, avec du texte en bas pour expliquer ce qui se passe.
Donc, ouais. Il y avait aussi Saavedra, mais je le situe pas du tout.
Ouais.
Position de Saavedra, mais...
Ah oui, je ne connais pas ça. Bon, enfin bref, il n'y a pas beaucoup de livres, et voilà. Donc non. Damiano doit faire autorité, son livre sort à Rome en 1512, il doit être diffusé parmi les joueurs italiens. Forcément, il fait parler de lui en Espagne, voilà, donc...
Et les bibliothèques s'enrichissent, il doit y avoir effectivement quelques exemplaires qui circulent, et c'est ça qui est intéressant.
C'est ça qui est intéressant, c'est que, voilà, il y a ce bouquin, en quelque sorte, qui est là, il n'y en a pas d'autres, et ce livre de Ruy López, finalement, eh bien, voilà, avec ce livre de Ruy López, on passe à autre chose, quoi, voilà.
Le savoir se constitue.
Voilà, on a un savoir supérieur qui arrive par-dessus, et il s'appuie dessus, ouais. Donc Damiano fait partie, en quelque sorte, le livre de Damiano est presque inclus dans celui de Ruy López. Alors pas tout à fait, parce qu'il ne l'a pas repris tel quel, il n'y a pas... je ne connais pas le livre de Damiano dans le détail, je ne l'ai pas lu, mais c'est dans ce que reprend Ruy López, c'est essentiellement les parties, et quelques commentaires de Damiano, mais que Ruy López traduit à sa façon, donc on est déjà dans une traduction, et donc on n'a pas exactement le livre de Damiano, mais on a quand même une retranscription, notamment pour tout ce qui est ouverture et partie. Voilà. Et donc avec beaucoup de critiques, effectivement, mais techniques, des critiques techniques. Voilà.
À un moment donné, je m'étais demandé s'il n'y avait même pas deux Damiano, parce que je connaissais l'existence d'un livre de Damiano, enfin un facsimilé accessible par Internet, mais qui était en italien.
Oui.
Et Damiano était bien portugais.
Alors Damiano est portugais, mais son livre effectivement est sorti en italien.
Oui.
Voilà, le livre de Damiano est sorti en 1712 à Rome, parce que bien que portugais au départ, il a émigré à Rome en fait.
Oui, oui.
Voilà, donc c'est... Alors l'histoire dirait que c'était un apothicaire juif qui aurait été chassé du Portugal, puisqu'à cette époque, bon, ils ont commencé à chasser un petit peu les juifs.
Oui, il y avait Venise aussi qui était déjà puissante, peut-être, si je dis pas de bêtises. Donc ça circulait, hein, il y avait...
Voilà, bon, je ne sais pas si ça circulait ou pas, mais enfin, en tout cas, il a émigré à Rome, voilà, et donc c'est normal qu'il ait été édité en italien. Alors, il y a des historiens actuels qui disent que Pietro Damiano aurait pu être aussi un nom d'emprunt d'un fameux architecte et peintre, artiste catalan, voilà, qui s'appellerait Vincent, je crois, Vicente, quelque chose comme ça. Donc à vérifier, mais voilà, c'est une thèse qui circulerait là-dessus. Bon, mais
bon, restons-en l'orthodoxie.
Voilà, l'orthodoxie, c'est que c'était un Portugais émigré donc à Rome et qui aurait donc édité son livre en italien, effectivement. Voilà. Donc voilà. Donc et ce Damiano donc est repris ici, critiqué par Ruy López techniquement, puisqu'effectivement il apporte des améliorations. Et il explique aussi que parfois la méthode de Damiano pêche un peu. Dans sa pédagogie, hein, je crois qu'il est critique sur la pédagogie, puisqu'il dit, bon ben là, et quand même, si on est un bon joueur et qu'on veut expliquer à un débutant, il vaudrait mieux quand même donner des bons coups et pas une suite de coups qui ne sont pas bons, parce que ça fait trop de mauvais coups à la fois et ça explique pas bien la partie.
Ça fait d'ailleurs un deuxième passage assez humoristique,
oui.
En respectant Damiano, à un moment donné, une suite de coups qui lui paraît incompréhensible... voire inepte,
oui.
Il se pose la question de savoir si Damiano s'est pas endormi au moment où il rédigeait son texte.
Exactement, effectivement.
J'ai trouvé ça très drôle.
Ouais, mais c'est très drôle.
C'est pas agressif du tout, hein. C'est.
Ouais. Non, c'est pas agressif particulièrement.
Dans l'après, un ton tout à fait délicieux.
Ouais, tout à fait amusant. Et il le dit deux fois, ça. On peut se demander effectivement si Damiano n'a pas composé cette partie en dormant. vu le nombre d'erreurs qu'il a repérées. Mais bon, c'est pas sur toutes les parties, c'est 2 ou 3. Mais donc c'est amusant parce que on a là quand même un dialogue entre deux théoriciens, voilà, distants de 50 ans, et qui, alors évidemment, il peut pas répondre aux MNO, hein, parce qu'il est plus là. Mais on a l'impression quand même que voilà, il y a une espèce de dialogue qui s'établit entre les deux champions. Avec Rui Lopez, bon, qui fait quelques traits effectivement d'humour sur certains points, tout en par contre lui rendant hommage. Alors ça c'est important à noter, je crois que c'est aussi quelque chose qui est mal compris, puisqu'il lui rend hommage sur le Gambit d'Amiano. Alors Gambit d'Amiano, pour ceux qui savent jouer, c'est E4-E5, cavalier F3 et F6. Les noirs répondent par F6 et là on sait assez vite. Quand on étudie le jeu, quand on est débutant, on ne sait pas forcément, mais dès qu'on étudie le jeu, on sait que les blancs peuvent prendre un E5 en donnant un cavalier. Voilà.
Ouais, exactement.
Et donc c'est un gambit, alors soit de la part des noirs, si on considère que les noirs donnent deux pions, ou donnent le pion E5, parce que si les noirs reprennent le cavalier, ils sont quasiment foutus tout de suite. C'est-à-dire que derrière, il y a une série
dame
de pions.
Échec.
Voilà, les dames H5 échec, avec plein de menaces, et il y a justement la démonstration complète de ce quasi-mat hein, forcé, c'est quasiment un mat forcé dès le troisième coup, mais un mat qui fait genre 15 ou 20 coups, vous voyez, c'est assez extraordinaire, parce que c'est à passer 3 coups, il y a presque un mat forcé en 15 coups, voilà, c'est ça la magie de ce gambit, je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel à apprendre quand on débute le jeu d'échecs, et donc Damiano avait fait une étude assez bonne, voire même très bonne, et même si Rui Lopez apporte quelques améliorations, en donnant des variantes qui effectivement sont encore plus fortes que celles de Damiano, qui étaient déjà des variantes fortes, il lui rend hommage en disant que c'était quand même la partie que Damiano avait analysée le mieux. Voilà.
Oui, il lui rend même un hommage encore plus probant en jouant une partie, alors en tous les cas, il lui est attribué contre le meilleur joueur italien de l'époque, qui s'appelle Dacutri, si je ne dis pas de bêtises. Et qui est exactement cette partie où Dame H5, etc. Alors là, ça finit pas par un mat, les noirs abandonnent, mais la démonstration, c'est que l'avantage est décisif.
Oui, l'avantage, effectivement, est souvent décisif dans cette ouverture. Voilà, donc ça, c'était sur la partie d'Amiano. Alors, peut-être avant de passer à la dernière partie, si tu veux, mes Pierre, on va faire une deuxième pause musicale, parce que là, ça nous fait une bonne deuxième partie pour l'émission avec ce livre 3 dont on a donné quelques grandes lignes. Et la partie 4 va être très intéressante puisqu'on va parler des parties avantages. Alors là, c'est très amusant.
Oui, très instructif.
Très instructif, très amusant aussi. Et vous allez voir, tout à fait inattendu pour les joueurs modernes. Et ça mérite d'être étudié un petit peu. Donc on va voir ça livre 4 juste après cette deuxième pause musicale sur Fréquence Diagonale.
Home.
Nous voici de retour donc sur Fréquence Diagonale pour cette troisième partie sur le livre de Ruy Lopez, livre de l'invention libérale et art du jeu d'échecs, toujours donc avec Pierre Tesserin, critique hein, échiquéen, critique littéraire, ayant lu et participé à la production de cette réédition du livre, hein, puisque tu as repéré un grand nombre de évidemment de petits défauts qu'il fallait corriger, ce qui a bien entendu été fait. Alors il peut toujours rester évidemment sur l'édition d'un livre des coquilles ou des petites erreurs, et dans ce cas-là évidemment il faut les signaler pour améliorer les révisions éventuelles de la suite. Mais alors donc tu as découvert donc aussi et donc un peu comme moi en primeur, hein, tu as été un des premiers hommes du 20e siècle à découvrir du 21e siècle à découvrir ça. Hein, puisque voilà, il n'a pas été réédité depuis 400 ans, ce pauvre Ruy Lopez, ce magnifique livre, hein, extraordinaire. Donc, livre 4, là aussi un nombre de chapitres conséquents, hein, puisqu'on va arriver à 15 chapitres. Hein, bon, c'est pas la plus grosse partie du livre, hein, c'est peut-être la plus petite, mais ça fait c'est un peu plus petit que la partie 3. La partie 3 donc consacrée à la révision de Damiano dont on vient de parler, mais donc la partie 4, donc les parties à avantage. Alors c'est surprenant hein, quand on découvre ça, mais bien qu'il nous donne un aperçu bien sûr au tout début avec les conseils et règles, puisqu'il parle déjà un petit peu de ce qu'il faut faire dans les parties à avantage, mais c'est dans le livre 4 où on a des détails.
Ce qui est très intéressant, c'est que quand on pense partie à avantage, on imagine que ça ne peut être qu'on donne un cavalier, on donne une tour, mais ça c'est l'avantage. Il y a l'avantage contre aussi, c'est-à-dire que l'adversaire, par exemple les noirs, ont le trait et commencent la partie, mettons E5, c'est le premier coup de la partie, même s'ils ont un cavalier en moins, et ça c'est très instructif parce qu'on peut imaginer qu'un camp qui a l'infériorité matérielle doit trouver des systèmes pour éviter une attaque qui déboule, donc c'est très enrichissant de voir un peu les conseils qui sont donnés pour, par exemple, du côté des blancs, comment limiter l'activité du foie adverse, etc. C'est pour ça que je trouvais ça particulièrement instructif, pour nous qui jouons assez souvent.
Oui, parce qu'il y a effectivement dans cette approche des parties à avantage, comme tu le signales, cette volonté dont on a parlé un peu déjà tout à l'heure, d'objectiviser au maximum l'explication et la pédagogie, c'est-à-dire de se placer des deux côtés, pas forcément de toujours montrer un côté qui serait toujours avantageux pour montrer des belles parties, etc., mais essayer d'avoir une analyse la plus scientifique possible, en quelque sorte. Et il va, dans les parties avantages, donner à la fois les séries de coups qu'on peut jouer si on a l'avantage soi-même, mais aussi si on n'a pas l'avantage. Voilà. C'est-à-dire qu'il va dire comment jouer face à un avantage ou comment jouer avec l'avantage. Alors, et ce que tu disais, effectivement, c'est pas toujours le don d'une pièce qui est fait, mais il y a parfois des subtilités, c'est-à-dire je donne le pion central pour l'adversaire, en échange de quoi je mets le roi au coin. C'est-à-dire que j'échange le roi avec la tour dès le début de la partie. C'est-à-dire le roi est déjà à l'abri, en quelque sorte, sur le côté, et la tour se retrouve au centre tout de suite, en échange de quoi j'ai donné le pion central. Voilà, donc il y a plein d'avantages comme ça, très différents, qui existent, et c'est pas toujours je donne le pion F2, par exemple, ce qui était assez souvent le cas, d'ailleurs, au XVIIIe siècle, au temps de Philidor, quand on a l'avantage, c'était souvent le pion F2. Là aussi, ça peut être... Voilà, là aussi, ça peut être ça, mais ça peut être je donne deux fois le trait à l'adversaire, voilà, les blancs vont pouvoir jouer E4 et D4 au premier coup, pour installer des pions au centre, ou alors voilà, donc plusieurs types de comme ça d'exemples de divers d'avantages, et comme tu le dis effectivement, dans l'explication technique des parties qui s'en suivent, on apprend encore une fois des choses qui vont être utiles dans les parties où il n'y en a pas davantage.
Oui, absolument. Et tu parles de la position où on met le roi déjà à l'abri, etc. On peut imaginer aussi des positions où on change les pièces de place. Ça fait penser à Fischer qui voulait enrichir le jeu par le shuffle chess ou
ouais,
les pièces pour se forcer à réfléchir et pas jouer mécaniquement, machinalement, faire travailler la mémoire, mais la réflexion. Et c'est exactement ce qui se passe dans ces situations-là où on a les blancs et c'est les noirs qui commencent la partie. On envisage le jeu de manière différente. On vraiment se pose les questions stratégiques, savoir quelles sont les cases faibles, quelles sont les potentialités, quelles vont être les pièces les plus dynamiques à contrôler, etc. Ou à mettre en jeu.
Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a semblé le plus étrange dans ces parties avantages? Est-ce que tu as un des avantages qui t'a paru curieux ou...
Là, peut-être, pas bien en mémoire le détail des parties. Donc, c'est d'une manière générale, je dirais, c'est cet ordre des coups qui est un petit peu bouleversé, qui fait que on se retrouve avec des dames tout de suite opposées ou un roi qui doit fuir prématurément une défense sur la dame qui est rendue problématique par la disparition du cavalier B8 par exemple pour les noirs. C'est ça qui est intéressant et ça donne l'occasion de réfléchir aux échecs, de faire une réflexion approfondie sur la défense, sur le rôle des pièces en défense. C'est ça que j'ai trouvé particulièrement enrichissant pour un joueur, pour les joueurs que nous sommes.
Alors, à noter que dans cette livre 4 sur les parties avantages, c'est encore Damiano qui donne le ton des parties, c'est-à-dire qu'il voilà ce que propose Damiano, et voilà ce qui selon moi est correct, parce que si on fait comme Damiano, ça va pas à cause de tel ou tel coup qu'il n'a pas vu ou qu'il a mal analysé. Donc il y a encore, disons ici, une référence encore, alors pas sur toutes les parties, mais il y a un peu des deux, c'est-à-dire il y a un peu du Ruy Lopez sans référence dans cette partie-là, et du Damiano mélangé, voilà.
Oui, ça c'est très juste, parce que effectivement dans les parties où on donne l'avantage du pion F, comme tu disais, on peut retrouver les variantes qui ont précédé dans les autres chapitres, mais tout est bouleversé, tout est changé, donc il faut repenser la défense, repenser l'organisation des pièces, le développement et la mise en sécurité du roi. Donc il y a une espèce d'extrapolation là qui est très riche d'enseignement.
Oui, exactement. Absolument, je dirais.
Voilà, bon. Après, une fois que les dames sont échangées, là, on peut songer plus à la structure des pions. C'est pour ça qu'il montre quand même des parties où vraiment on songe à développer au mieux les pièces restantes et à se défendre au mieux, sachant qu'il y a une pièce manquante.
Ouais. Voilà, donc après, bon, voilà, sur cette partie-là, sur les parties avantages, bien entendu. Bah, le mieux après c'est d'en prendre connaissance, parce qu'on ne fait plus ça du tout quasiment, hein, ça n'existe presque plus. C'est-à-dire aujourd'hui les variantes du jeu qu'on continue disons à faire, qui dévient un peu du jeu d'échecs, c'est genre le Blitz à 4 par exemple, hein, voilà,
oui.
ce genre de choses, mais des parties avantages, quoi que ça doit exister en club encore, avec des débutants, sans doute les forts joueurs doivent...
Oui, avec des jeunes, moi je m'étais amusé à le faire à l'époque où je donnais des cours... aux jeunes à Dax,
ouais.
On cherchait des variantes comme ça pour enrichir, pour penser autrement que par mémoire des coups, des parties qu'on a vues ou des ouvertures mémorisées. Ça enrichit, ça peut donner la compréhension de la puissance d'un fou dans certaines situations ou de la supériorité d'un fou sur un cavalier.
Oui, exactement, oui, bien sûr, c'est très utile pédagogiquement parlant, tu as raison. Alors, puisque la simple disparition d'un pion ou le changement de place de pièce ou le fait de donner deux fois le trait, bah ça rend toute la préparation théorique des ouvertures obsolète,
exactement,
inefficace, et il faut réfléchir au jeu selon les principes de fond, donc réfléchir dès le début, et ça pédagogiquement parlant, ça évite effectivement de se retrouver avec, avec des débutants qui essaieraient de répéter des coups de mémoire et qui, dès qu'ils se retrouvent après dans des positions qu'ils ne connaissent pas, ne savent plus quoi jouer. Voilà, c'est ça le problème. Évidemment, si on oublie d'apprendre les principes avant de commencer à étudier les ouvertures, eh bien, on va savoir jouer quelques ouvertures, mais comme disait Philidor aussi, il va le dire dans son livre aussi, Philidor, il va dire, mais le problème, c'est qu'après 4-5 coups, ils connaissent par cœur, mais dès qu'ils arrivent dans une position qu'ils connaissent plus, ils font n'importe quoi. C'est-à-dire que voilà, ils ne savent pas pourquoi les coups ont été joués, alors qu'il y a des raisons profondes derrière. Il vaut mieux apprendre les raisons qui sont applicables dans toutes les ouvertures que d'essayer d'apprendre quelques ouvertures, puisque le nombre d'ouvertures est bien supérieur au principe, justement, en général. Si on fait des principes, c'est pour simplifier la réflexion, justement. C'est pour essayer de la généraliser à beaucoup de cas possibles, et c'est plus intéressant à essayer de comprendre et à apprendre que la mémoire, bien entendu, même si la mémoire est utile, bien sûr, mais elle est moins, quand même, moins que les principes, puisqu'avec les principes, on peut retrouver des bons coups d'ouverture, même si on ne connaît pas l'ouverture, alors qu'à l'inverse, avec que des ouvertures, on ne peut pas retrouver les principes.
Ouais. Les jeunes aimaient bien, justement, ce genre de choses, construire des rocs à double rangée de pions, se barricader, mettre des cavaliers, des tours tout autour du roi, parce qu'il suffisait qu'ils oublient une petite faiblesse, et il y avait toujours une prise, et c'est ça qu'on peut découvrir à travers les parties avantages de Ruy López. Et les jeunes, ils le découvraient sans avoir lu Ruy López, finalement.
Et alors, à noter aussi, que assez amusant à noter et très instructif, c'est les conseils de Ruy López quant aux avantages qu'il faut choisir ou ne pas choisir, parce que c'est bien de jouer des parties avantages, mais après, quand l'adversaire vous propose un avantage, lequel choisir? Il dit parfois de pas accepter ça, parce que si le joueur en face, vous ne le connaissez pas, il peut dire « finalement, je suis un mauvais joueur, il faudrait que vous me donniez un avantage », et à la fin, il se révèle être un joueur beaucoup plus fort que ce que vous croyez, et vous allez perdre parce que vous allez simplement accepter de jouer un avantage face à un joueur dont vous n'avez pas mesuré la force avant.
Ouais.
Voilà, donc il est précis là-dessus aussi, c'est amusant.
Ouais, et puis même dans ces parties-là, il continue à développer les principes fondamentaux. Il parle encore d'un pion des quatre isolés. C'est quand même des notions qui travaillent intemporelles, je dirais.
Oui, exactement. On retrouve les principes fondamentaux du jeu dans Ruy López déjà. Et même s'il y a donc ces petites différences de pratique, ce roi qui saute et qui ne roque pas, c'est quelques parties à la mode italienne sans la prise en passant, mais il n'y en a pas tant que ça, très peu. Et évidemment, des ouvertures qui sont essentiellement des débuts ouverts de type pion du roi. Eh bien, on découvre quand même les principes fondamentaux, les pions centraux, comme tu disais, les pions isolés, le fait qu'il y ait de créer des ruptures, voilà, quelques principes généraux dans les finales, notamment quelles sont les finales qui gagnent et qui ne gagnent pas, avec cette subtilité que si on prend la dernière pièce de l'adversaire, eh bien, c'est considéré comme une partie qui se termine, avec une sorte de demi-victoire. Et donc, si on veut mater avec roi et dame contre roi et pion, il ne faut pas prendre le pion. Voilà, des choses comme ça, qui bien sûr n'ont plus cours aujourd'hui, donc ces parties-là ont un intérêt essentiellement historique aujourd'hui, mais techniquement, il y a quand même beaucoup à apprendre de ce manuel, et je dirais dans l'ordre où ça a été découvert par les grands joueurs du passé.
Oui, avec sa volonté de toujours donner un conseil, de faire progresser, on sent qu'il y a une volonté de transmettre un savoir, et puis ça reste ouvert.
Ouais. Alors, pour finir cette émission, Pierre, peut-être. Alors, est-ce que tu te rappelles notamment est-ce que tu as lu la première partie, notamment la lettre du roi qui explique.
Oui, bien sûr, j'ai tout lu. Voilà. Oui, la recommandation, même aux questions des. Pas des royalties, mais.
Oui, c'est ça.
Que sera emprisonné ou. Oui. De toute contrefaçon ou de copie illégale, c'est intéressant, surtout dans un livre qui est en licence libre.
Oui, c'est vraiment amusant cette histoire-là.
Le paradoxe.
Oui, effectivement. Alors, je vous donne permission, habilitation pour que vous, la personne que vous pourrez choisir, puissiez imprimer le dit livre susmentionné, et que pour une durée des 10 premières années suivantes qui courent et se comptent à partir du jour de la date de cette cédule, c'est à partir d'aujourd'hui, vous puissiez imprimer et vendre le dit livre. Et j'ordonne et défends que toute personne, sans votre permission, pendant la dite période des dites 10 années, ne puisse l'imprimer ni le vendre. Voilà, donc...
donc... C'est fantastique. Moi, le roi, enfin, pour...
Ouais, sous peine de perdre tous les livres qui auraient été imprimés, plus 10 000 maravédis. Alors il y a une note ici, j'ai fait des calculs, j'ai vérifié qu'est-ce que c'est qu'un maravédis. C'était une petite monnaie espagnole de cuivre au 16e siècle. Un maravédis valait la 34e partie, donc 1 réal divisé par 34 en fait, 0,093 grammes de métal argent, puisque c'était ça qui faisait office de monnaie à l'époque. Voilà. Voilà, donc il y avait déjà un copyright avec amende. Hein.
Oui.
Donc, c'est amusant parce que...
Oui, bien sûr, mais c'est normal. C'est ça qui fait toute la richesse de... En fait, ce livre, il parcourt tout, hein, l'histoire, la théorie, les sciences, le latin, les romains, les grecs. C'est une mine. Il est très beau, ce livre.
Ouais, c'est vraiment... ouais, je crois que c'est ça valait le coup, hein, de le ressusciter en quelque sorte, hein, et puis surtout de le faire connaître au public francophone, puisqu'apparemment il n'y a jamais vraiment eu traduction, puisqu'il y a quelques livres qui semblent reprendre des chapitres du Ruy López, d'après ce que j'ai vu, mais c'est des traductions partielles, il n'y a pas tout déjà, c'est très partiel, il y a des ajouts, donc c'est des semi-traductions, je dirais, et ça date du XVIIe siècle, donc c'est en notation, encore une fois là, descriptive, hein, il n'y a pas de diagramme, etc. Donc c'est des livres anciens qui sont à la fois partiels et qui sont pas lisibles aujourd'hui. Voilà, donc je pense que ça valait le coup et je crois que ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'apprendre du jeu ou de l'histoire du jeu si on s'est déjà joué, mais aussi d'apprendre le jeu en lisant les anciens, alors, en ayant traduit et adapté, hein, ça à un public moderne aussi, pour que ce soit accessible bien sûr. Puisqu'on voilà, on réapprend les trucs, en quelque sorte, les astuces, les lois, les principes du jeu, dans l'ordre où ils ont été découverts. Et c'est peut-être l'ordre le plus facile.
Les fondamentaux, comme on dirait au rugby.
Voilà, exactement, c'est les fondamentaux. Et il vaut mieux commencer par les fondamentaux dans l'ordre, plutôt que de les découvrir après, quoi. C'est-à-dire, voilà, on commence pas d'abord à faire les gestes techniques difficiles, avant d'avoir bien appris et bien compris, bien pratiqué les gestes techniques faciles. Ou en tout cas de base, voilà, quand on a les choses de base, après on peut envisager d'aller plus haut. Je pense qu'il y a une méthode plus progressive et plus adéquate pour progresser, et je pense que par l'histoire du jeu et par les grands livres ainsi du passé, dans l'ordre historique, on peut peut-être mieux apprendre le jeu et progresser plus facilement et de façon plus efficace aussi, voilà. Donc,
et puis ludique avec ce livre, avec tous ces diagrammes qu'on peut prendre comme ça, on ouvre le livre et on a tout de suite dans le vif du sujet. Voilà. Et après on saute sur internet pour voir si on peut appliquer certaines petites règles, si son jeu s'en est vu développer.
Et donc pour finir, alors je signale pour ceux que ça intéresse que le livre sera en dédicace donc le 23 octobre, donc le Ruy López et aussi le Philidor, il y aura des exemplaires de Philidor aussi, le 23 octobre donc au Canal Saint-Martin-Échec à Paris, donc vous allez sur le club du Canal Saint-Martin-Échec sur internet pour avoir les coordonnées, c'est le vendredi 23 octobre. Je serai aussi à Bordeaux fin décembre, la date n'est pas encore... finalisé, mais je serai à Bordeaux fin décembre pour une dédicace, c'est sûr. Et puis je serai aussi, c'est sûr, à Nancy en février pour le Festival d'échecs de Nancy. Pareil pour une dédicace du Ruy López. Il y aura aussi, bien entendu, quelques exemplaires du Philidor pour ceux qui ne l'auraient pas encore eu à disposition. Voilà, donc Nancy aussi en février. Voilà, donc si vous êtes aussi intéressé pour avoir un événement autour du Ruy López pour le présenter une partie des commentaires du livre, bien vous pouvez bien entendu écrire à Fréquence Diagonale sur le site, vous cherchez le mail et vous envoyez une demande et bien sûr on y répondra dans les mesures des possibilités. Voilà, donc Pierre, toi tu es sur Dax, alors tu seras peut-être à Bordeaux pour Noël.
J'essaierai.
Mais tu as déjà, toi, bien sûr, tu t'es déjà muni du Ruy López dans les Landes, qui est donc déjà présent dans les Landes, hein, voilà.
Bayonne.
Voilà. Qui est à côté de quoi d'ailleurs, c'est à côté de Dax, hein.
Oui, moi je suis à côté de Dax, à une vingtaine de kilomètres.
Voilà, à côté de Dax. Donc voilà, donc le Ruy López qui continue donc son voyage dans l'espace et dans le temps, qui nous rejoint. Alors, donc un petit mot pour la fin, pour nos auditeurs, Pierre.
Écoutez, lisez le Ruy López de Stéphane. Excellent livre.
Ben voilà, mais merci à toi. Merci de nous avoir suivis donc pour cette émission spéciale donc hein, Ruy Lopez avec donc notre critique littéraire hein, sur Fréquence Diagonale, Pierre Tesserin, amoureux du jeu d'échecs comme nous et amoureux des livres et de l'histoire du jeu. Je vous donne rendez-vous donc à une prochaine émission sur Fréquence Diagonale et je vous laisse donc avec notre générique fétiche Broken Embraces. Au revoir, à bientôt.